Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. C'est la saison des 15 ans et la troisième émission de cette nouvelle saison. Le contexte est très particulier sur le plan sanitaire en ce moment et vous allez voir que cela nous concerne aussi directement cette semaine. Je vous explique tout dans un instant. On ne vous lâche pas et on continue notre grand voyage francophone. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le voyage continue donc, on vous emmène au bord du Léman avec Cygnes et Canards au bord de l'eau. La semaine dernière, nous étions en public à Morges et nous y avons aussi retrouvé ensuite la comédienne Isabelle Carré qui publie un nouveau roman remarqué, Entretien et voyage immobile avec elle tout à l'heure. La rentrée littéraire, c'est aussi de nouveaux livres de poche pour tous les budgets. Nous vous avons sélectionné deux romans belges écrits par deux femmes qui ont connu le succès lors de leur première sortie en librairie. Myriam Leroy et Adeline Dieudonné sont clairement des révélations belges à ne pas manquer. Et puis nous serons avec Philippe Djian qui publie un nouveau roman événement. Écrit avec son style cadencé et très rythmé comme dans un film, il nous emmène en 2030 avec des personnages alambiqués confrontés à un monde qui brûle de toutes parts. La librairie francophone réalisée dans un contexte particulier cette semaine, confinée. Notre équipe est en effet suspectée de Covid. En attendant que tout soit clair et que tout le monde soit en bonne santé, nous sommes isolés et nous faisons cette émission entièrement à distance avec des moyens techniques adaptés et renforcés. Nous avons donc changé le programme prévu initialement, mais nous tenons la barre. Pas de rediffusion pour le moment, mais un vrai programme pour vous. Tant que nous pourrons, nous serons avec vous et mobilisés pour votre librairie francophone hebdomadaire. Et les libraires aussi sont mobilisés. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne et vous représentez la Belgique. On va commencer avec vous et avec une petite anecdote de libraire. On reprend les habitudes du confinement. Souvenez-vous, que vous est-il arrivé dans votre vie de libraire, Déborah?
Alors, une petite anecdote romantique, Emmanuel, vous allez adorer.
J'adore.
Voilà, on a nos clients, un habitué qui est venu et on avait suivi son divorce difficile pendant très longtemps et il vient nous présenter sa nouvelle compagne. Alors de loin, j'entends la dame qui lui dit « Oh mon chéri, c'est un bel endroit, je comprends que ça soit ta librairie préférée » et le monsieur de lui faire une petite mise au point « Mais ma chérie, ce n'est pas ma librairie préférée, c'est ma librairie, toi tu n'es pas ma femme préférée, tu es ma femme ».
D'accord, oui, c'est pas mal. Oui, c'est joli, Déborah,
c'est joli. C'est mignon, Emmanuel, c'est mignon et c'est essentiel sur le fond, des deux côtés.
Très bien, allez, on vous l'accorde. Merci, merci, Déborah. En France, c'est Anne-Rosine Vosa qui est avec nous depuis la Martinique. Bonjour, Anne.
Bonjour, Emmanuel.
Heureux de vous retrouver, vous dirigez la librairie Le Papillon Bleu à Fort-de-France. En Suisse, c'est Dominique Bressou qui est avec nous, libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Et au Canada, Josiane Letourneau est fidèle au poste dans sa librairie du Square à Montréal. Bonjour Dominique, bonjour Josiane.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Avant d'écouter Isabelle Carré au bord du Léman en Suisse, votre avis sur son nouveau roman qui ne fait pas l'unanimité en cette rentrée littéraire, mais dont tout le monde parle. Alors vous l'avez lu, qu'en pensez-vous? On va commencer avec vous Josiane, tiens, au Canada.
Alors pour moi, Isabelle Carré est réellement une écrivaine. D'entrée de jeu, elle réussit à créer des personnages et des scènes qui m'ont touchée par la justesse et la complexité humaine qui y sont dépeintes. Mais si j'admire son ambition narrative, dis-je, j'ai eu la sensation qu'elle avait tellement à cœur de développer en détail tout ce qui est abordé dans ce roman qu'il donne l'impression d'en contenir finalement plus qu'un.
Bien, mitigé donc. Dominique Bressou en Suisse, êtes-vous d'accord?
Moi, je suis aussi très, très partagée sur ce roman. L'écriture précise et en même temps poétique de l'auteur, ça aide à passer certaines longueurs pas vraiment indispensables à la tenue du récit. Mais finalement, à la fin du livre, moi, j'ai gardé cette impression que j'ai eue chaque fois que j'ai regardé une photo dite panoramique. Vous savez, qui défile sur 180 degrés. Le paysage est intéressant, mais l'œil et l'attention ne se fixent pas.
Bien, donc des avis mitigés, c'est confirmé, il y a effectivement des sujets forts dont on va parler tout de suite à vous qui nous écoutez de vous faire une opinion sur ce roman. On va écouter Isabelle Carré avec le retour du voyage immobile que vous avez pu entendre tout l'été dans la librairie francophone estivale. Elle a choisi les bords du Léman en Suisse, presque dans l'eau, hein. On est vraiment juste à côté à quelques centimètres pour évoquer une autre ville quelque part dans le monde et parler bien sûr de son livre. Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
Nous sommes à Morges, en Suisse, au bord du lac Léman. Vous entendez d'ailleurs le lac là, parce qu'il est un peu agité. Et vous avez choisi cet endroit, Isabelle, pour le voyage immobile dans la librairie francophone. Racontez-nous, décrivez-nous ce que nous voyons.
Oui, on a l'impression d'être au bord de la mer. Il y a carrément des vagues qui ont failli nous immerger tout à l'heure. Ça me fait vraiment penser à un endroit qui m'est cher, le Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz. Grâce aux digues qui ont été construites par Vauban, on a cette impression de mer qui est en fait comme un lac, parfois même moins agité que ce lac-ci, et les montagnes autour, la Rune, les montagnes des Trois Couronnes. Donc voilà, j'ai le sentiment d'être dans mon cher Pays Basque quand je suis ici, même si les montagnes sont plus hautes et les sommets plus blancs.
Alors transportez-nous là-bas. Imaginez que vous êtes au Pays Basque, dans une maison, la maison où vous allez. Vous ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous voyez en premier ?
Les maisons sont rouges et moi j'ai grandi, alors ça contredit ce que je viens de vous dire, mais j'ai grandi dans une maison entièrement peinte en rouge. C'était un appartement, d'ailleurs c'était pas une maison, avec un plafond marron et des moquettes vert pomme, on dit dans les années 70. Voilà, et quand je suis arrivée au Pays Basque, ce qui m'a marqué, c'est ces maisons rouges. J'ai retrouvé un goût d'enfance grâce à cette couleur, sang de bœuf sur les murs des maisons. Et il y a une identité en fait, c'est ça que j'aime, un peu comme ici d'ailleurs. On n'est pas comme partout ailleurs. On est là, on sait qu'on est là parce qu'il y a une langue, parce qu'il y a une nourriture. Si je rentre dans cette maison, eh bien, je vais sentir l'odeur des piquillos farcis et je vais boire un petit vin dit rouligui, un petit vin basque qui rouligui. Et je vais entendre cette langue, milechker, ça veut dire merci, adio pour au revoir. Voilà, c'était le seul mot que je vais vous citer. Itzatso Aldea, près de la mer. Voilà, nous sommes donc près de la mer.
Qu'est-ce que c'est la recette des piquillos farcis ?
De la morue, dont, évidemment, j'avais oublié le...
Poivron, non ?
Des poivrons rouges, voilà, merci. Et tout ça cuit, mijoté, dans une sauce tomate, qui doit être, à mon avis, les meilleures sauces tomates des piquillos farcis, sont les tomates qui sont sucrées.
Bien, voilà, ça donne envie. On est toujours au bord du lac Léman, on est assis sur des marches, Isabelle Carré. Vous avez choisi des marches qui nous mènent vers la mer, enfin vers la mer, vers le lac, vous voyez, le lapsus. Et puis il y a un écriteau sur lequel vous marchez d'ailleurs, Isabelle, la ville de Morges, qui parle du pain pour les cygnes et les canards. C'est sympa, mais ça ne leur fait pas de bien. Et on explique qu'il ne faut pas donner de pain aux canards, parce qu'il y a beaucoup de canards autour de nous qui sont sur le lac Léman.
Oui, et ça me fait penser à mon conte préféré, qui est le conte d'Andersen, le vilain petit canard. J'ai longtemps cru en être un, jusqu'au moment où je me suis rappelé en fait la fin du conte. En fait, le vilain petit canard n'en est pas un, c'est un cygne. Il suffisait qu'il rencontre d'autres cygnes pour se sentir à sa place. Et ça a été mon cas quand je me suis retrouvée dans un cours de théâtre et que j'ai vu d'autres garçons et filles aussi passionnés que moi par les textes, par le théâtre, par les émotions. Et là, je me suis sentie moins canard et plus cygne.
Alors, des vilains petits canards, il y en a dans votre roman du côté des Indiens. Ce roman part d'ailleurs de la demande d'interview d'une journaliste française au moment de l'affaire Weinstein. Vous ne pouviez pas répondre à ce moment-là. Et alors, vous en avez fait un roman. Un roman qui est une sorte de fresque avec des personnages qui se cherchent, qui sont au bord du précipice, qui sont de vilains petits canards pour la société. Pourquoi vous avez répondu à cette affaire Weinstein par un roman, Isabelle Carré ?
Parce que j'avais besoin de temps et puis j'ai le sentiment que la façon dont je peux le mieux m'exprimer, me sentir le plus libre et partager davantage, c'est grâce à la fiction. Peut-être ça c'est une déformation aussi de mon métier de comédienne, mais j'avais pas envie de participer aux petites phrases qui font le buzz, mais de prendre le temps, comme d'ailleurs l'a fait d'une autre manière Adèle Hanel, en prenant le temps d'enquêter avec Mediapart, et surtout de construire son discours, pas simplement de dénoncer, mais de raconter vraiment les choses en profondeur. Voilà, et moi j'avais envie de parler plutôt de la trace, en fait, que ça laisse. Cette zone grise que j'emploie entre guillemets parce que beaucoup de féministes, à juste titre, n'aiment pas l'employer, disant que c'est une chose qui est assez commode pour les violeurs, puisqu'elle englobe un peu, c'est un sac fourre-tout qui les déresponsabilise. Mais quand même, en ce qui me concerne, je voulais raconter pas une, mais deux, trois expériences effectivement personnelles où je n'ai pas su dire non. Et puis aussi, vous imaginez, en 32 ans de métier, ce que j'ai pu entendre, ce qu'on a pu me confier, voilà, sur ces deux jeunes actrices qui ont été confrontées elles aussi à ça, et faire exploser aussi l'idée que les actrices couchent pour obtenir des rôles. Non, dans toutes les expériences que j'ai entendues et celles que j'ai vécues moi-même, c'était après, c'était une fois qu'on était employée et qu'on était dans un rapport hiérarchique qui faisait que c'était difficile, voilà, de se défendre, et cet effet de surprise aussi.
Alors jette un œil à côté de nous parce qu'il y a un signe qui s'approche de très très près. Il faut se méfier des signes, hein, parce qu'ils ne sont pas toujours très sympas. Et il est à quelques centimètres de nous, Isabelle.
Même pas peur, c'est joli qu'il arrive alors qu'on parlait des signes. On n'a pas de canard qui est venu vers nous, mais un signe magnifique qui nous a regardé avec une curiosité. Voilà, et qui maintenant repart tranquillement. Il ne nous a même pas fait mal, vous voyez, c'était...
J'ai un mauvais souvenir d'enfance, c'est ça. Attaqué par un cygne à Genève, c'était déjà arrivé. Bon, Isabelle Carré, j'ai relevé quelque chose que vous avez dit là à l'instant. Vous dites trois fois où je n'ai pas su dire non.
Oui.
Comment on fait, je dirais, pour ne pas réussir à dire non?
Ben parce qu'il y a cet effet de surprise dont je vous parlais. Et puis, il y a aussi une éducation, peut-être. Et c'est là où voilà, j'avais envie, à travers ce roman, d'apporter ma petite pierre, même si ce sujet-là est très important et je ne veux pas du tout l'évacuer, c'est effectivement le thème central du livre, mais il y a quatre parties. La fin de l'enfance, qui est la première partie, qui commence un peu effectivement comme un roman d'apprentissage. Ça pourrait être aussi, en tout cas je l'ai pensé comme tel, inspiré par La vie devant soi de Romain Gary, qui a un odeur que j'adore. Voilà. Et puis après, il y a effectivement Muriel qui raconte sa jeunesse, son passé de comédienne. Et puis, il y a Bertrand, le papa de ce petit garçon, Ziad, du début du roman. Parce que l'enfance décide, disait Jean-Paul Sartre. Donc c'est pour ça que j'avais eu envie de commencer par l'enfance. Et Bertrand, qui lui est confronté à un autre obstacle, celui de la santé, qui vient lui rappeler que la vie est fragile et que peut-être il n'a pas vécu tout ce qu'il avait à vivre.
Alors du coup, ils ont tous des secrets, vos personnages. Ils n'ont pas su dire non aussi, à leur manière d'ailleurs, avec des manières très différentes.
Ils ont tous un besoin en tout cas de consolation.
Vous avez eu besoin de consolation, vous Isabelle, quand vous n'avez pas su dire non par exemple, ou dans votre carrière d'actrice, un métier pas toujours facile, on le sait. Il y a eu ces moments-là où vous avez eu besoin de consolation?
Franchement, je me sens très privilégiée, je ne me plains pas du tout par rapport à mon métier. Déjà, j'ai la chance incroyable de faire ce que j'aime. Ce qui est très rare, j'ai bien conscience que beaucoup de personnes ont rêvé dans leur jeunesse d'un métier artistique ou d'un autre et n'ont pas eu la possibilité de dérouler le fil et de suivre cette voie-là. Ceci dit, j'ai eu aussi une désillusion, une déception, parce que moi je voulais être danseuse et j'étais pas douée pour ça. Donc j'ai dû voilà, changer d'aiguillage et faire un pas de côté et finalement je le regrette pas du tout. Bien sûr qu'il y a des obstacles, mais il y en a dans toute vie. Je pense pas que le métier de comédien soit plus difficile qu'un autre. Encore une fois, oui, on a beaucoup parlé des actrices pendant MeToo, pendant l'affaire Weinstein, mais la difficulté, elle est partout, elle est pour toutes les jeunes femmes, j'insiste sur le mot jeune, qui, voilà, dans une forme de naïveté, dans un désir de bien faire, dans une éducation où il y a encore beaucoup à faire, se sont retrouvées un jour, effectivement, il y en a beaucoup, dans cette impossibilité de pouvoir dire non. Et là, oui, effectivement, on peut parler d'éducation encore une fois et peut-être, oui, dire aux hommes que questionner ne désérotise pas une relation, bien au contraire.
Alors dans ce roman, du côté des Indiens, vos personnages ont des secrets, l'adultère, la maladie, l'alcoolisme, les secrets qui nous entravent parfois ou au contraire qui nous rendent vivants, qui nous maintiennent en vie parfois. Isabelle Carré, vous êtes d'accord avec ça, vous ?
Il y a une journaliste qui m'a dit « Pourquoi vous ne nommez pas ?» Alors moi, je lui ai dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est... » Et je comprends que certaines femmes le fassent, mais c'est vrai que j'ai le goût du secret. Et puis, j'ai aussi le désir, non pas de dénoncer, mais encore une fois, même si je comprends tout à fait qu'on ait besoin de le faire, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Mais mon intérêt était plutôt de parler de la trace que ça laisse. Moi, je sais que la façon dont je peux le mieux m'exprimer, c'est effectivement... en dévoilant les secrets, mais en gardant aussi mon jardin secret.
Il est grand, le jardin secret d'Isabelle Carré?
Oula, oui.
C'est vrai.
Très grand, mais oui. La société de la transparence, c'est pas quelque chose qui me séduit, en fait. Je me souviens des premières émissions de télé-réalité, j'étais effrayée, j'en dormais pas de la nuit. Je me disais, mais comment ils vont se récupérer, ces gens, après? En fait, qu'est-ce qui leur reste? C'est aussi le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai été nue sur un plateau de cinéma. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste? J'étais bouleversée en rentrant le soir à l'hôtel. J'avais l'impression qu'il ne me restait plus rien. Et non, je pense que non, il me reste beaucoup de choses et c'est bien comme ça.
Les Indiens, Isabelle, en général, ce sont ceux qui perdent dans les films. Vos personnages, ils sont, je le disais tout à l'heure, au bord du précipice. Vous pensez...
films, mais ceux aussi qui n'ont pas pu écrire l'histoire.
Mais vous pensez qu'on valorise trop les gagnants dans notre société?
Absolument, on valorise les marches du podium. Je vais faire encore une citation, mais il y a cette phrase de Cocteau que j'aime beaucoup qui dit « Les premières places ne sont pas intéressantes, celles qui m'intéressent, ce sont les places à part ». Et je pense qu'on peut dire beaucoup plus de choses quand on a une place à part, quand on se dégote une petite place à part, même modeste, on a plus de liberté forcément.
Merci beaucoup Isabelle Carré.
Merci à vous.
Merci. Du côté des Indiens est paru chez Grasset. Et merci pour cette promenade immobile, quelque part, au bord du lac Léman. Et ce voyage immobile, on essaye de vous faire voyager dans l'émission malgré le contexte difficile toujours. Merci Isabelle.
Merci à vous.
Et à suivre dans la librairie francophone sur les antennes de France Inter, de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, deux livres de poche belges et Philippe Djian sur notre plateau. Avant cela, voici un nouvel artiste nommé Iba. C'était Iba dans la librairie francophone avec Chief Kif.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
La librairie francophone vous emmène fouiner dans le rayon des livres de poche à présent. Je ne sais pas vous, mais nous avons, nous, dans l'équipe, une affection particulière pour ces petits livres, souvent bien édités, que l'on peut emmener partout. Nous avons repéré pour vous deux auteurs belges. L'une d'elles a connu un sacré succès lors de la sortie de La Vraie Vie, qui avait obtenu d'ailleurs le prix Renaudot des lycéens. Quant à Myriam Leroy, elle avait attiré l'attention en publiant un roman sur le harcèlement en ligne. On commence avec elle et avec nos libraires. Et bonjour Myriam Leroy.
Bonjour.
Votre nouveau roman Les Yeux Rouges raconte une histoire de harcèlement sur Internet. Votre personnage, journaliste à la radio et chroniqueuse à la télévision, comme vous, reçoit un jour un message sur Facebook. C'est un fan a priori.
C'est un fan qui s'insinue dans la vie de la narratrice avec une drague un peu lourdingue, pas fondamentalement antipathique, mais tout de suite un petit peu déplacée parce qu'il met quand même la conversation sur un plan intime, ouais, et sexualisé alors qu'il se dit marié, très heureux au ménage.
Il est intrusif, quoi.
Voilà, il est intrusif. Mais c'est un lourd, un balourd comme on en voit plein, sauf qu'en fait ce balourd va à un moment donné péter une case.
Mais alors tous ceux qui sont exposés dans les médias, Myriam Leroy, connaissent ce genre de harcèlement à un degré plus ou moins grand. C'est immonde, c'est perturbant, mais finalement, il faut s'attendre à être insulté, non ?
Bien sûr, je pense que quand notre existence est portée à la connaissance du public, il y a des chances pour qu'on tombe sur des personnes malveillantes qui ont envie de nous emmerder. Par contre, on nous dit souvent aux femmes médiatisées que c'est le revers de la médaille, sauf que c'est une médaille que je ne vois pas portée de la même manière par mes homologues masculins. Je connais aucun type qui a vécu les mêmes histoires que moi, alors que je connais plein de consoeurs qui ont vécu les mêmes histoires que moi. Et c'est un livre qui ne parle pas des femmes médiatisées, enfin, dans la narratrice l'est forcément, mais moi je voulais pas parler de moi ou de mon cas personnel, parce que toutes les femmes, à partir du moment où leur attitude ne permet plus de les confondre avec un paillasson, sont exposées à ce type de comportement haineux et misogyne.
Bon, le harceleur, Denis, est un peu misogyne. Il dit qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme, et c'est ainsi depuis toujours. Il débat tout seul sur ce sujet, il alimente une sorte de provocation. L'objectif, c'est qu'elle réagisse.
L'objectif, je ne sais pas en fait quel est l'objectif en fait de ces hommes qui expliquent le féminisme aux féministes. L'idée, c'était de montrer à quel point ils pouvaient être insidieusement désagréables. Même, bien sûr, on a le droit de débattre de tous les sujets. Mais là, placer ce type d'explication, le type explique à la narratrice ce qu'elle sait mieux que lui, puisqu'en fait, ça fait partie de son boulot. C'est une manière de faire monter le malaise, en fait, dans le récit.
Oui, c'est ça. Mais pourquoi elle n'arrête pas cette relation? Pourquoi, comme ses amis lui disent d'ailleurs, elle ne le bloque pas sur Facebook? Ça, c'est possible, ça. On le fait.
Bah, elle l'explique à un moment donné du livre. Il y a le hors-champ qui apparaît.
Non, mais je parle au début, quand on voit que ça, tout de suite, que ça vrille, on arrête, non?
Oui, bien sûr, mais on peut essayer d'arrêter et que ça ne pas y parvenir, on peut ne pas répondre. Et voilà, je pense que c'est vraiment une question éternelle à laquelle peu de femmes ont répondu. Comment on fait pour se défaire d'un gêneur?
Vous l'avez connu, ça, vous?
Oui, bon, ouais. Tout le monde le connaît.
Oui.
C'est vraiment très banal, en fait.
Mais on arrête
et
très
personne
vite, vous
n'a
arrêté.
La solution.
Vous avez arrêté ou vous avez continué, vous?
Continue à quoi?
À communiquer avec la personne qui vous en voulait un peu ou qui vous insultait.
Ah non, moi je disais rien.
Oui.
Oui, non, je disais rien. Mais quoi qu'on fasse, en fait, on est toujours dans une situation où on a tort et on est perdante.
Oui, c'est compliqué.
Si on répond, t'aurais pas dû répondre. Si tu réponds pas, mais si tu réponds pas, en fait, comment peux-tu savoir qu'il est gêneur? Si tu bloques, mais enfin, c'est agressif.
C'est le dilemme.
Donc oui, on ne sait pas comment réagir.
Bon, allez, on va aller voir du côté de nos libraires, Myriam Leroy. On va commencer par le Canada avec Josiane Letourneau.
Alors, je suis encore complètement désarçonnée par votre livre, Myriam Leroy. Votre fabuleuse aisance d'écriture m'a frappée. Et j'ai plongé tête première dans le roman, je l'ai dévoré d'une traite, et je vous remercie de l'avoir écrit. Parce qu'au-delà du bourreau désigné, vous n'épargnez personne, amis, collègues, amoureux, naturopathe, tout le monde passe à la moulinette, il le mérite d'ailleurs. Et c'est fait avec talent, courage et intelligence.
Eh ben, Mathieu Colombe, pour la France, êtes-vous d'accord?
Mais complètement.
Oui,
bien sûr, moi aussi, j'ai avalé le roman tout cru.
Je m'attendais pas à ça de vous.
Ah si, si, en même temps, le sujet est bien mené, on sent qu'il y a vraiment une dimension cathartique dans l'écriture. En plus, rajoutons à ça le ton du texte, il donne une impression de distance froide face à ce qui se raconte, et on se retrouve avec un récit très accrocheur. Et en plus, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un livre qui devient nécessaire.
Dominique Bressot pour la Suisse. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors moi, c'est la première fois qu'en lisant les premières lignes d'un roman, j'ai l'impression d'en connaître la fin. Et c'est là le paradoxe, parce que même si on voit le piège à des kilomètres de distance, on est quand même obligé d'avancer en même temps que l'héroïne, et on se sent tout aussi démuni qu'elle. Et c'est un roman au style saccadé, presque affolé sur la fin, et en fait, c'est beaucoup plus proche d'un témoignage que d'un roman.
Oui, c'est vrai.
Et c'est très bon.
C'est vrai que ça sonne comme un témoignage, Myriam Leroy. On a l'impression vraiment que vous avez vécu tout ça.
Bah oui, en fait j'ai vécu tout ça et je...
À ce point-là donc.
Oui, à ce point-là. Par contre, pour moi c'est un roman parce qu'il y a...
Mais vous m'avez dit j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de...
Oui, en fait il y a toute une partie où j'invente un personnage puisque moi me renseigne pas sur les personnes qui m'agressent. Donc voilà, là j'ai inventé un personnage, une vie, un CV, des passions, des discussions. Moi j'ai surtout vécu la partie hostile du spectacle. Mais je me suis aussi inspirée de choses que des amis, des collègues, des consoeurs avaient vécu. Ouais. Donc c'est de la pâte humaine véritable, mais j'estime quand même que c'est un roman.
Bon, votre personnage va porter plainte à un moment, déclarer une sorte de maladie aussi, une maladie aux yeux. Ce traumatisme, en fait, va bouleverser sa vie. Elle est perdue et on se demande vraiment tout au long du roman comment on en est arrivé là. Parce qu'il y a pire comme situation. Il y en a qui se font menacer par des extrémistes, par des djihadistes, par des choses beaucoup plus graves que ça.
C'est pour ça qu'en fait ce genre de sujet n'a pas l'œil et l'oreille des institutions, de la police, de la justice et de l'entourage. On nous dit, quand ça nous arrive, et c'est ce qu'on dit à la narratrice, t'as qu'à pas aller voir, t'as qu'à pas aller voir, ce que tu ignores ne peut pas te faire souffrir. Or, quand on est pris dans la nasse, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Et puis être harcelé, on n'est pas harcelé sur Internet en fait, on est harcelé dans notre vie, on est harcelé dans notre corps. C'est l'être humain de chair et de sang qui palpite, qui est attaqué par ces comportements hostiles. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle Les yeux rouges et que la narratrice somatise ce qui lui arrive. C'était pour montrer que être harcelé sur Internet, c'est pas comme être tabassé par un hologramme. Non, c'est bien réel et ça peut même être physique.
Le roman de Myriam Leroy vient tout juste de sortir en poche chez Point. La sortie en poche du roman à succès d'Adeline Dieudonné était programmée en pleine période de confinement. Il est finalement sorti cet été. Voici notre entretien avec l'auteur. Et bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Vous publiez La vraie vie aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman qui tient en haleine et qui est effrayant. L'histoire d'un foyer au père violent, chasseur, porté sur le whisky, caractériel. Il a été traumatisé lors de son enfance, c'est ce qu'on comprend. Et puis, il y a vos deux personnages, deux enfants, une fillette et son petit frère, qui vont être à leur tour traumatisés. On n'en sort pas des traumatismes de l'enfance ?
Non. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se répète. Une sorte de boucle dans le roman, oui. Il y a la première année, il se passe un événement traumatisant qu'on ne va pas révéler, hein, je pense.
Non.
Voilà. Et après, le bouquin s'articule sur 6 étés de la vie de ses enfants.
Donc on suit leur évolution.
On suit leur évolution.
Ils grandissent difficilement, dans la violence toujours. Il y a le père qui bat sa femme, il est capable comme ça de lui écraser la tête dans une assiette de viande trop cuite. Il aime beaucoup la chasse, le sang, la mort animale, c'est sa passion.
Oui. En tout cas, il a une vision de prédateur. Il se positionne vraiment en tant que prédateur par rapport à sa famille, par rapport à sa femme et par rapport à ses enfants. Pour lui, je pense que dans son esprit, il est un grand prédateur.
Ouais, vous faites un parallèle hasardeux, si je peux me permettre, Adeline, parce que vous mettez en parallèle plutôt, c'est plus juste, l'image du chasseur avide de viande, avec l'homme violent qui bat sa femme. Quel est le rapport ?
Non, en l'occurrence, le personnage est comme ça. Non, je ne fais pas de parallèle. De toute façon, je pense qu'il y a autant d'hommes qui battent leurs femmes. Et les chasseurs, bah oui, pareil, il y en a plein de toutes les sortes. Maintenant, c'est vrai que je suis toujours un tout petit peu effrayée de voir ces images de safari comme ça, où on voit des mecs posés sur le cadavre d'un animal, d'un lion, d'une girafe.
Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs, lui.
Oui.
Alors c'est un livre assez gore, comme on dit, mais il y a en contrepartie beaucoup de tendresse entre frères et sœurs. La fillette protège son petit frère le plus possible, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, on va pas tout dire non plus, mais à un moment elle ne peut plus.
Voilà, mais je pense qu'elle a un peu pris le rôle de la maman, qui elle est très effacée et qui s'est un petit peu résignée par rapport à son mari. Et par rapport à ses enfants, elle s'en occupe pas beaucoup, donc la fillette, elle prend un petit peu ça en charge. Elle a son petit frère qui a 4 ans de moins qu'elle, et donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Jusqu'au moment de l'accident, où il y a quelque chose qui va changer chez lui,
Il va assister à un truc horrible.
Voilà, il va être profondément traumatisé.
Chez
elle
un
aussi.
Marchand de glace. Et on s'arrête là.
Voilà, exactement. Bon. Mais donc, c'est la perte de l'innocence, l'enfance qui s'éteint brutalement.
Alors, vous questionnez le concept comme ça de famille dans ce livre Adeline Dieudonné. Comment une famille peut-elle se souder autour des repas, du quotidien, de la transmission aussi? Là, pourtant, ça vrille. Il y a quelque chose comme ça qui empêche ce bonheur familial. Qu'est-ce qui empêche ça dans une famille, dans certaines familles?
Ouf, j'imagine qu'il y a plein de situations différentes. J'aurais pas de réponse toute faite par rapport à ça.
Mais vous avez enquêté, vous avez vécu des choses pour écrire des choses pareilles, non?
Non, j'ai eu une super enfance, très très heureuse. Tout
c'est
va
vrai
bien.
Ouais, vraiment.
Oui, vraiment.
Alors vous l'avez pioché où tout ça?
Je suis partie du principe que chez le papa, il y avait quelque chose, il y avait une profonde blessure, il y a quelque chose qui l'empêchait d'aimer. Il était envahi par sa colère. Colère qui, effectivement, donne des indices qui viennent de son enfance, du fait que lui-même n'a pas eu de papa, quelque chose dans la transmission. Mais donc, effectivement, il est en colère et il sème la terreur dans cette famille. Mmh. Et c'est ça qui empêche l'amour et une cohésion familiale. Mmh.
La violence faite aux femmes, vous questionnez aussi ce sujet-là, à la mère dans un premier temps, puis à la fillette, sans trop en dire. Mais il y a surtout la violence sur les animaux, qui est tout le temps là. C'est vraiment le fil rouge. Les animaux se font massacrer dans votre livre, tout le temps. C'est un roman sur la souffrance animale aussi?
Oui, je ne l'ai pas anticipé, ce sujet-là.
Mais c'est récurrent.
Oui, et je pense que ça doit correspondre à une réflexion dans laquelle j'étais au moment où j'écrivais. C'est-à-dire que c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur notre rapport aux animaux. Parce qu'on en est, nous aussi, des animaux, un peu à part, mais je trouve qu'on a tendance à se positionner, à s'opposer au règne animal, à considérer qu'on n'en est pas. Et voilà. Et c'est vrai que pendant que j'écrivais, j'étais en pleine réflexion sur pourquoi on mange de la viande, pourquoi on se permet de les élever dans des conditions épouvantables, de les tuer.
Enfin, vous avez pris les sujets dont on parle en ce moment, quoi.
Peut-être bien.
Non, mais c'est vrai.
Ouais.
C'est un roman qui est ancré dans l'actualité.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
Vous l'avez voulu comme ça?
Je l'ai pas voulu, je l'ai pas cherché, mais je pense que je suis influencée forcément. Je l'ai aussi écrit en plein hashtag MeToo, ce qui explique probablement le sujet de la violence faite aux femmes. Clairement, oui.
On va terminer avec une petite curiosité culinaire. La mère s'occupe des animaux et elle cuisine. Et elle prépare, vous en parlez deux ou trois fois, elle prépare des pêches au thon. Alors, petite curiosité culinaire, pour ceux qui ne sont pas belges, car c'est une spécialité belge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la recette des pêches au thon?
Bizarrement, je vous jure, c'est bon. C'est-à-dire que...
Bah allez-y, alors c'est quoi?
Bah c'est une demi-pêche, vous savez, les pêches qu'on a en boîte à conserve. Oui, mais en général, les trucs au sirop, là.
Ouais.
Et dans lesquels on prend du thon qu'on mélange avec de la mayonnaise. Et on met ça sur la pêche et on mange ça ensemble. Et je vous jure, c'est bon. Il faut essayer.
Bon, je préfère, moi, les tomates crevettes grises à choisir.
Qui est aussi une spécialité.
Voilà, exactement. Merci Adeline Dieudonné. La vraie vie est parue aux éditions L'Iconoclaste. C'est votre premier roman. Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci à vous. La vraie vie d'Adeline Dieudonné est sortie au livre de poche. Avant de rejoindre Philippe Djian en studio, voici un petit cadeau musical avec le tout nouveau titre de Raphaël dans la librairie francophone.
Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressembles à pardon. Oh, l'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de sel. Qu'on se réchauffe un peu, qu'on se réchauffe un peu. Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'heure dans les bras du dépanneur? Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée, vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de prise là. On a eu Twitter, Victoria Beckham, s'occupant de nos âmes. Ça bouge un peu, le mal de mer, on
sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Maquillage bleu sur tes yeux, tu ressembles.
C'était le nouveau titre de Raphaël, Maquillage bleu.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici, Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Philippe Djian.
Bonjour.
Un entretien à distance aujourd'hui exceptionnellement en raison d'une suspicion de Covid dans l'équipe. Tous ceux qui sont autour de vous, Philippe, sont des collaborateurs et remplaçants qui n'ont pas été en contact avec nous. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en studio avec vous donc, mais dans un autre lieu, confiné pour cet échange. Comment allez-vous Philippe ?
Bah mieux après vos explications.
Oui,
je suis tranquille là.
Du coup ça va mieux. Bon, chacun de vos passages à la librairie francophone a laissé des souvenirs. On a souvent joué ensemble à râler, Philippe Djian, souvent parce que vous préférez parler du style que des thèmes de votre livre. Mais dans 2030, ce nouveau roman, il y a un sacré sujet, bien exploré en plus, celui d'un monde qui vacille avec les changements climatiques et avec des personnages qui ont tous des traumatismes et des secrets. Dresser des portraits, c'est cela qui vous a encore motivé pour ce livre ?
Bah, on va arrêter de parler du style parce que maintenant je commence à être un peu vieux. Donc à 71 ans, tout le monde doit savoir de quoi je veux parler quand je parle du style. Donc on va peut-être parler de l'histoire pour une fois.
D'accord.
Bah oui, il y a des personnages, mais qui sont... Il y a cette jeune femme, enfin cette jeune fille, mais qui deviendra une jeune femme dans le livre, qui est Greta Thunberg.
Oui.
Tout est parti d'elle, en fait. Tout est parti de son visage, d'une espèce de... ce côté paisible, enfin, que moi je ressens en la regardant, et en même temps ça mettait en valeur tous les imbéciles qui ont commencé à dire de quoi elle se mêle, qu'est-ce que c'est que cette petite nana, à son âge elle ferait mieux d'aller à l'école. Ça, j'ai trouvé que c'était insupportable, parce qu'en même temps tous ces gens qui étaient contre elle avaient pas de solution, et c'était des vieilles personnes comme moi. Donc c'est plus à nous de parler et de dire ce qu'il faut faire.
Alors c'est vrai qu'on voit cette jeunesse qui se mobilise, on croise une doublure de Greta Thunberg en quelque sorte dans votre livre. Cela vous rassure, Philippe Djian ? Vous les admirez, ces jeunes-là, ou c'est de la com' selon vous ?
C'est ni de la com' ni de l'admiration, c'est simplement trouver que c'est bien qu'à un moment, les gens qui sont concernés s'occupent de leur avenir. Et moi, j'ai plus à m'occuper de mon avenir. Les gens de mon âge, on n'a plus à s'occuper de notre avenir, on a juste à réussir notre mort prochaine. Donc on n'a plus à intervenir, sinon se mettre à leur service et de les aider éventuellement, mais pas de les enfoncer ni de dire de quoi ils se mêlent. Ils se mêlent justement de quoi il faut qu'ils se mêlent. C'est ça le problème.
Alors votre personnage Greg est mêlé à une sale affaire dans le laboratoire chimique de son beau-frère dont il est l'employé. On pense à un fameux herbicide qui a rendu malade et tué des gens même. Il a perdu son fils et sa femme dans un accident de voiture. Il lui reste ses nièces, Lucie notamment, dont il s'occupe beaucoup, et elle va intégrer un groupe militant écolo, un peu emmené par la fameuse doublure de Greta Thunberg, et pourtant ça inquiète votre personnage. Qu'est-ce qui l'inquiète ? Qu'est-ce qu'il craint ?
Il craint qu'ils aient pas un avenir très reluisant, et que on peut penser aussi que les gens de mon âge, on a eu vraiment une jeunesse libre, ouverte. On découvrait tout. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, c'était nouvelle musique, nouvelle mode, nouveau cinéma, tout ça. Aujourd'hui, ça s'est vraiment réduit. Et pourquoi ? Parce que on n'a plus d'avenir à leur proposer, et que ça se dégrade tout doucement, enfin même des fois un peu plus violemment que doucement. Mais l'idée, c'était aussi de se demander à un moment, est-ce qu'on va vers cet effondrement dont certains nous parlent aujourd'hui, un espèce d'effondrement brutal ? Moi, j'ai plutôt l'impression que si on regarde Lisant en arrière, bah oui, il y a des choses qui marchent moins bien, mais la résilience de l'homme, c'est incroyable. Je pense qu'on s'habitue à tout et qu'on va s'habituer à avoir des étés très chauds, à des hivers peut-être glacés. On va boire du vin qui pousse au fin fond de la Norvège. Enfin, mais on va s'adapter, même quand ça va être terrible. Aujourd'hui, si je vous disais, vous allez plus trouver d'aspirine, vous allez plus vous trouver des lentilles pour vos verres de contact. Enfin, on va s'habituer. On n'arrête pas de s'habituer tout le temps.
Ouais, c'est ça, ouais. Alors vous êtes un sacré personnage, Philippe Jean, parce que je m'étais préparé à parler du style, moi, du coup, parce qu'à chaque fois, vous me grondez.
Si vous me tendez la perche, je ne pourrais pas pleurer après. Hein.
À chaque fois, je me fais gronder parce que je parle des thèmes, parce que c'est un peu le principe de l'émission. Mais alors, on va parler du style vite fait, parce que c'est vrai que c'est un style où on est tout de suite comme dans une scène de cinéma. Quand on commence le livre, c'est incroyable parce que votre style, il est cadencé, il est rythmé, il a quelque chose de très fort comme ça qui nous capte immédiatement. Et alors, Greg va vouloir annoncer la nouvelle à la mère de Lucie, dire à sa mère, donc à sa sœur, la sœur de Greg, que Lucie va s'engager comme ça dans le militantisme. Et il y a ce passage qui résume bien la situation de départ et qui nous met dans l'ambiance. Annoncer le militantisme de Lucie. Vous écrivez « ça va être compliqué ». Ta mère va s'étrangler. Bien sûr qu'il faut avoir des convictions, c'est ça ou se noyer. Mais tu nous vois annoncer à Sylvia que tu t'es embarqué là-dedans, que tu peux être viré de ton école et aussi ramasser un mauvais coup et être fiché par la police. Ça va être dur, on aurait dû procéder par palier. J'ai pas envie de mentir. Procéder par palier, je n'appelle pas ça mentir. J'appelle ça ne pas faire souffrir les autres plus que nécessaire, tu vois. Autant que faire se peut, tu sais de quoi je parle. On devrait avoir un minimum de pitié pour ses nerfs. Les contrariétés, ta mère les collectionne en ce moment. Rien ne va plus autour d'elle. Et c'est vrai, Philippe, que rien ne va plus dans cette famille.
Oui, mais moi, j'ai toujours l'impression de jamais raconter des trucs très étranges. J'ai l'impression qu'il y a toujours dans les familles des problèmes qui sont... des problèmes qui sont mis au grand jour ou qui sont cachés, mais les problèmes sont toujours là. Je ne connais pas de famille ni de personnes qui n'ont pas des choses à régler avec eux-mêmes ou à régler avec les autres. Je trouve que tout le monde est comme ça. À un moment, on me disait, mais vos personnages, ils sont toujours bizarres. J'ai répondu, montrez-moi des gens qui ne sont pas bizarres, ça va me changer un peu quelque part. Mais c'est pas mal. Mais c'est normal qu'on soit bizarre. On est comme ça, c'est ça l'être humain, d'être bizarre, de ne pas savoir, de croire qu'il sait sans savoir. On n'est que la somme des expériences qu'on va rencontrer dans la vie. Donc les gens ne sont pas mauvais,
surtout
ils sont
vous.
Bizarres. Surtout moi, je ne sais pas si je suis bizarre. Mais,
si.
Mais non, c'est... Mais en même temps, c'est pareil. Pourquoi est-ce que là, vous m'avez tendu une petite perche avec le style, par exemple. Je trouve qu'aujourd'hui, quand même, quelque part, il faudrait peut-être que les écrivains s'inquiètent de savoir si ce qu'ils écrivent et la manière dont ils écrivent les choses, est-ce que c'est adapté à un public qui n'est pas forcément du même âge qu'eux-mêmes, mais qui aussi peut intéresser des gens plus jeunes ou voilà. Est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Mais si vous écrivez comme au 19e, la super belle langue, et Dieu sait si elle est belle, mais il y a des tas de gens qui vont pas comprendre ce qu'on raconte. Donc, il y a une histoire d'adaptation. On doit s'adapter à ça. Et si on considère que le monde dans lequel on vit pourrait éventuellement être résumé par une mélodie, il faut la trouver, cette mélodie. Quelle est la mélodie qu'on entend aujourd'hui en sortant dans la rue en 2020? Eh ben, moi, je la cherche. Et je l'ai pas trouvé, mais je la cherche.
Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires qui ont lu votre roman, Philippe Jean. Trois l'ont lu, le Canada, la Belgique et la Suisse. On commence par qui?
Ben, n'importe, hein.
N'importe. Bah, le Canada, ça vous va?
Ah, je les aime bien, les Canadiens. Allons-y.
Allez, allons-y. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Eh bien, moi, j'ai plongé dans cette histoire comme on marche dans un marécage en compagnie des personnages les plus cyniques et désabusés que j'ai croisés en littérature depuis longtemps. Et ce roman est d'autant plus troublant qu'il dépeint une réalité qui pourrait être la nôtre. Bref, malgré son terrible pessimisme, j'ai lu cette histoire avec une paradoxale fascination.
Bon, c'est pas mal.
Est-ce que c'est un compliment ou pas? Je n'arrive pas vraiment à comprendre. Si, j'imagine.
Bah oui.
Mais même si ce n'est pas un compliment, ce n'est pas grave. Chacun doit lire et ressentir ce qu'il a envie de ressentir. Mais déjà, s'il y a une espèce de fascination, j'espère que ce n'est pas une fascination morbide, mais sinon, c'est bien, oui?
Oui, c'est bien. C'est bien. On va voir avec Déborah en Belgique, tiens, si elle est d'accord. Déborah.
Moi, du côté de ce que j'ai aimé dans ce roman, il y a les personnages, effectivement, leurs interactions, j'ai aimé leur façon de déambuler, d'exister, d'échanger entre eux. Ils étaient vraiment là devant moi pendant que je lisais et j'ai eu vraiment l'impression de ressentir ce qu'ils traversaient. Ils m'ont semblé juste vrais, c'est tout. Mais du côté de ce qui a moins plu, il y a votre espèce de futur trop présent, de présent déjà futuriste. Bon, j'ai bien compris la parabole, je suis d'accord avec les explorations, mais moi, j'ai pas tout à fait marché.
bon voilà, Déborah mitigée.
On peut comprendre, je veux dire, il est bien évident qu'à un moment, c'est pas mon genre de faire des enquêtes ou de faire des analyses particulières sur ce qui pourrait éventuellement être ce monde dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc l'idée, c'était pas celle-là, c'était simplement de me dégager d'une espèce de polémique que je sentais venir si je prenais la défense de cette jeune femme, Greta Thunberg. Donc je la mets dans 10 ans. Donc plus personne, tous les gens qui, Léon Frey, tous ces gens-là qui lui ont tapé dessus, pourront pas venir me dire mais de quoi tu te mêles, de qui tu prends la défense. C'est un roman d'anticipation dans 10 ans. Donc venez pas me casser les pieds avec ça.
Bon, Dominique Bressoux en Suisse est un peu plus réservé, on va dire. Dominique.
Alors les livres à message, ça peut être parfois pesant. Et là, j'ai découvert qu'un livre sans message, ça peut être pesant aussi. De même, je râle sans arrêt sur les livres pour enfants très genrés, avec tous les archétypes et les clichés qui vont avec. Et je constate que les livres genrés adultes continuent d'exister aussi. Mais je suis convaincue que ce livre trouvera ses lecteurs exclusivement chez les hommes un peu cyniques, à qui le rythme saccadé et haletant du texte plaira sûrement.
C'est un livre pour les hommes, Philippe Dian ?
J'ai pas l'impression, ça ben me laisse complètement pantois ce genre de réflexion, parce que c'est pas du tout... On peut reprocher plein de choses à mes livres, hein, et je suis le premier à le faire, c'est normal, c'est moi le premier qui critique mes livres. Mais là, je comprends pas très bien ce truc genré, pas genré... Je sais pas, ça me fait presque penser à un autre monde. Moi, personnellement, je m'occupe pas de savoir quand je prends un livre, s'il est genré ou pas genré, il me plaît ou il me plaît pas, il m'intéresse ou il m'intéresse pas.
C'est vrai qu'il n'y a pas de morale ni de message dans ce roman.
Ah bah heureusement.
Mais comme souvent, hein, chez vous.
Mais heureusement.
C'est comme un état des lieux. C'est comme si cette année 2030 était un décor pour vos personnages qui font un peu ce qu'ils peuvent et vous dépeignez comme ça des personnages.
Mais parce que je pense que si dans 10 ans, l'effondrement complet et total n'aura pas lieu, mais il y aura un ajustement, c'est-à-dire qu'on va s'habituer à avoir des 50 et 60 degrés l'été, à avoir des incendies qui ravagent la moitié de la planète, on va s'habituer à avoir des problèmes d'approvisionnement pour les médicaments ou pour d'autres choses, on va s'y habituer. L'homme, il est prêt à s'habituer à tout. Donc voilà, moi je voulais simplement dire...
Vous pensez ça, vous pensez qu'en 2030, on va être dans une situation encore pire qu'aujourd'hui, parce que c'est ce que vous décrivez, et qu'on va s'y habituer ?
Bien sûr. Il y a déjà ces pénuries, les vaccins, on va plus trouver les matières premières pour les fabriquer, ou alors maintenant on voit bien que quand il y a des vaccins qui sont éventuellement là pour nous aider, ça va être partagé entre des pays qui ont les moyens d'un seul coup d'acheter carrément les labos et de tout garder pour eux. On va s'y habituer, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? On va s'y habituer, donc il y aura la moitié de la population qui va mourir d'un truc, pendant que l'autre est en train de passer une partie de sa vie au soleil, mais je crois même pas... Ça va pas être terrible parce qu'on s'habitue tellement facilement. Je trouve que c'est presque là ce qu'on peut reprocher de plus à l'homme, c'est ce côté de s'habituer à tout, à l'horreur. Les gens se sont habitués pendant les guerres, ils se sont habitués. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, des vieilles personnes que j'ai rencontrées, qui disent « Mais attendez, vous nous faites rigoler avec votre confinement, là. Vous savez ce que j'ai vécu pendant la guerre dans des caves ?» Ouais. Et ben voilà, le confinement, on pensait qu'on n'y arriverait pas, mais on va y arriver tout doucement. Et on va s'y habituer, ça c'est sûr. On s'habitue à des masques, on va s'habituer à d'autres choses. Mais c'est comme ça, c'est ni bien ni pas bien. C'est ni bien ni pas bien.
Bon, on va terminer avec quelque chose d'un peu plus léger. Vous abordez quelques sujets rapidement, l'air de rien, Philippe Dian. Les écrivains impolis en général, les éditeurs qui luttent pour le livre papier, c'est vrai. Vous en avez croisé des écrivains impolis et des éditeurs militants ?
Des éditeurs militants, c'est pas le mot, mais de vrais éditeurs, oui, j'en connais un qui a disparu il y a pas longtemps, qui était vraiment pour moi une espèce de figure de l'éditeur comme on devrait... Tous les éditeurs devraient être les mêmes que POL. C'est des gens qui lisent tous les romans qu'ils reçoivent de A à Z et qui mettent en avant plutôt la qualité du produit plutôt que le côté est-ce que on va avoir de la presse, est-ce qu'on va bien vendre, est-ce qu'on va... Non, ils trouvaient un texte bien, et ils l'aidaient, ils le sortaient un petit peu de l'ombre. Et il y a des éditeurs qui sont des éditeurs géniaux. Il y en a pas qu'un, il y en a d'autres, mais voilà. C'est donc les éditeurs. Puis alors les écrivains polis, je trouve que souvent les écrivains, je les trouve pas très polis. Je trouve qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Leur personne est tellement importante à leurs yeux. Je sais pas. Moi, j'ai toujours dit, mais la littérature, je m'en fous de la littérature, moi. L'important pour moi, c'est à un moment, j'ai réussi en écrivant des livres à faire vivre ma famille. Et j'en suis fier et j'étais très content. Mais j'aurais pu faire un autre métier. Il y a des métiers géniaux. J'aurais pu être ébéniste ou forgeron. Et pourquoi la littérature ? Ben non, la littérature...
Mais vous êtes poli, vous. Vous êtes poli avec tout le monde, avec les lecteurs, avec vos fans. Vous êtes poli?
Pas tout le temps, peut-être.
Mais on peut pas être bon, merci poli. Beaucoup, Philippe Djian. Merci infiniment. Merci d'avoir joué le jeu comme ça à distance dans cette émission un peu particulière cette semaine. 2030 est paru chez Flammarion. Merci à vous. À bientôt, Philippe.
Merci, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires à présent avec les coups de cœur et les coups de gueule. Un coup de cœur en France, à Fort-de-France, Anne-Rosine Vosa.
Oui, bon, pour Civilisation de Laurent Binet qui vient de sortir en poche. C'est un immense roman dans lequel l'immense auteur imagine que c'est le grand empereur Inca Atahualpa qui envahit l'Europe au XVIe siècle et que Christophe Colomb n'a pas du tout découvert le Nouveau Monde. Laurent Binet nous fait vivre cette version de l'histoire avec une telle maestria qu'on en jurerait qu'elle a eu lieu. Une fois de plus, l'auteur nous dévoile la puissance de son immense talent de conteur.
Civilisation de Laurent Binet, un livre qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie et qui vient donc de sortir en poche au livre de poche. Merci beaucoup Anne. Dominique en Suisse, un coup de gueule.
Oui, alors je vais peut-être être un peu injuste, mais il faut reconnaître que les retards dans les livraisons arrivant de France ou d'ailleurs, qui sont bien entendu largement dus aux conséquences du confinement, eh ben ça s'arrange pas très vite pour certaines éditions. Le comble a été atteint pour moi avec un rappel de commande de début mars, que j'avais fini par oublier, et client aussi d'ailleurs malheureusement, et pour lequel on vient de m'informer que la commande est prise en compte depuis hier.
C'est une catastrophe quoi.
On peut le dire.
Bon, merci Dominique. Déborah, un joli coup de cœur paraît-il.
Ah oui, un joli coup de cœur, toujours joli avec moi Emmanuel. Parce que s'il est une réédition, et augmentée hein, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas rater, c'est celle de « Quand le loup habitera avec l'agneau » de Vinciane Després. C'est un très très joli mélange de l'œil de l'éthologue et de la plume de l'écrivain, et elle nous emmène avec passion dans d'incroyables histoires d'animaux. Et comme chacun sait, les histoires d'animaux, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour faire réfléchir les hommes. Et je sais pas pourquoi, mais par les temps qui courent, faire réfléchir les hommes, c'est pas dommage, je trouve.
À force de se plonger dans la littérature jeunesse, hein, c'est notre spécialiste Déborah de littérature jeunesse, elle devient un vrai personnage de ces livres-là, hein, complètement romantique, complètement fantasque parfois, Déborah.
Vous m'aimez comme ça, Emmanuel.
Évidemment. Bon, c'est aux éditions Les Empêcheurs de tourner en rond. Tiens, ça tombe bien. Quand le loup habitera avec l'agneau. Merci à vous. On termine avec Josiane qui se lâche au Québec avec un coup de gueule pour conclure. Josiane.
Oui, là, parce qu'on est arrivé au moment fatidique, Emmanuel, la rentrée s'installe et avec elle, mon angoisse, celle que je ressens au fil des jours, des semaines et des mois parce que j'y arrive pas, il y a trop de livres que je veux lire. Et voilà, c'est l'échec assuré, c'est la course contre la montre. Pendant que la pile de livres ne cesse de grandir, je me sens comme Jack devant le haricot magique, c'est fou. Et même si j'arrête de dormir, de manger, si je me coupe de tous les réseaux sociaux, il y a rien à faire. C'est certainement le plus beau combat du monde, mais qu'est-ce que c'est terrible.
Les libraires sont en forme cette saison, je sens que ça va me plaire. Merci beaucoup, merci à toutes les quatre, au revoir à toutes.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Emmanuel.
Merci à vous, à très bientôt. Avant de conclure, le son de la francophonie avec l'une des musiques les plus écoutées quelque part dans un pays membre de l'OIF. Voici la chanteuse Fatoumata Diawara qui est dans le top 3 en ce moment en Guinée-Bissau. C'était Fatoumata Diawara avec Douha dans le top 3 en Guinée-Bissau. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal et Stéphane Combe, avec Paul Percheron à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère, Estelle Gap et Swann Blanchet en France, Jean-Marie Félix et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec tout le monde en forme et non confiné comme aujourd'hui. Bon week-end, bonne semaine à tous et surtout, faites attention à vous.